Une mystérieuse algue microscopique hante les cours d'eau de la Caroline du Nord. Elle brûle la peau de ses victimes et embrume leur esprit. Elle s'attaque même aux chercheurs qui tentent de l'étudier. Les autorités sanitaires interdisent l'accès des rivières et des plages contaminées. Elles doivent identifier l'origine du mal et enrayer le fléau avant qu'il ne soit trop tard. Le long du littoral de la Caroline règne une nature indomptée et grouillante de vie. Seth Willis et David Jones sont pêcheurs. Ils ont passé leur existence à sillonner les rivières Neuse et Pamlico qui baignent la Caroline du Nord. Mais depuis quelque temps, tous deux souffrent d'un mal étrange. À certaines époques de l'année, David Jones éprouve des nausées et des étourdissements quand il est sur l'eau. Comme ces symptômes se dissipent toujours au bout d'un moment, il ne s'en préoccupe guère. Mais un jour de 1995, ses troubles persistent et s'aggravent. Au moment de rebrousser chemin pour rentrer chez eux, les deux hommes sont brusquement confrontés à un problème. Aucun des deux ne se souvient de la direction à prendre. Pourtant, le temps est clair et les deux hommes connaissent la rivière Neuse comme leur poche. Mais ce jour-là, ils ne reconnaissent plus rien dans leur environnement. Les deux pêcheurs sont confus et désorientés. Ils tournent en rond pendant des heures à la recherche d'un point de repère familier, comme David Jones se le rappelle.
Tout d'un coup, on ne reconnaissait plus le paysage. On ne savait plus où l'on était. Ça fait un drôle d'effet. J'étais complètement perdu en moi-même.
Après avoir erré sans but pendant des heures, les deux hommes finissent par retrouver leur ponton d'amarrage. Mais leurs gestes sont de plus en plus décousus.
On essayait de mettre le bateau sur la remorque. Une opération aussi simple pour nous que d'enfiler son pantalon au réveil. Le problème, c'est qu'on n'arrivait pas à se concentrer sur les gestes à effectuer pour le mettre sur la remorque. Ça a duré près de 3 heures et demie.
En rentrant chez lui, David Jones raconte l'incident à sa femme. Depuis quelque temps, Margaret Jones a remarqué des changements chez son mari.
J'ai eu très peur, je me suis inquiétée. Je lui disais, tu ne crois pas que tu devrais voir un médecin? Pas question, me répondait-il. Plus il passait de temps sur l'eau, plus il allait mal.
En évoquant leurs symptômes respectifs, David Jones et son coéquipier, Seth Willis, découvrent que tous deux ont des douleurs et des lésions sur les bras qui ne guérissent pas.
Les lésions sont d'abord apparues au niveau du haut du gant, là où l'eau entrait en contact avec la peau. Les lésions ne cicatrisaient plus, et j'en avais de plus en plus. On sentait qu'il se passait quelque chose, mais on n'arrivait pas à savoir quoi.
Chaque fois qu'ils partent pêcher, les hommes remarquent une recrudescence de leurs plaies. Mais ce n'est pas tout. Les poissons qu'ils capturent sont eux aussi constellés de lésions. Les symptômes de David s'aggravent au point qu'il se décide enfin à aller voir un médecin.
Il n'arrivait même plus à dire ce qu'il pensait. Je me demandais s'il ne faisait pas une dépression nerveuse, parce que son comportement était devenu irrationnel. Il me disait sans arrêt qu'il avait l'impression que quelque chose rampait sous sa peau. Je ne comprenais pas. Je lui disais que c'était peut-être des démangeaisons ou une allergie, mais il répétait « Non, c'est comme si quelque chose rampait sous ma peau. »
Le médecin ne trouve aucune explication à ces symptômes. Il propose de contacter Joanne Burkholder, une chercheuse de Raleigh, qui effectue une étude sur les pêcheurs atteints de troubles physiques et mentaux similaires à ceux de David Jones. Écologiste du milieu marin, Joanne Burkholder dirige le Centre d'écologie appliquée de l'Université de Caroline du Nord. Elle a déjà entendu parler d'une mystérieuse maladie qui frapperait les pêcheurs comme David Jones.
Je siégeais à la commission des pêcheries marines de Caroline du Nord, où j'avais affaire à de nombreux pêcheurs de notre État, surtout ceux qui pêchent près des côtes. Petit à petit, je leur ai demandé s'ils avaient déjà été malades ou éprouvé des troubles bizarres quand ils naviguaient.
Joanne Burkholder se rend chez David et Margaret Jones à New Bern.
Quand j'ai rencontré David Jones, il avait les yeux et la peau qui brûlaient. Il respirait avec difficulté, parlait de façon confuse et se plaignait de sérieux trous de mémoire.
Joanne voit tout de suite que David Jones a besoin d'aide. Elle lui conseille de consulter un médecin au service de neurologie du centre médical de l'Université Duke. Le docteur Donald Schmeckel est spécialisé dans les troubles neurologiques rebelles.
Ses symptômes évoquaient des troubles du système nerveux. Il avait du mal à lire et maîtrisait mal ses émotions et sa réflexion. Il présentait aussi d'importants changements corporels. Il avait des problèmes hépatiques et un érythème cutané, ce qui multipliait les hypothèses. Était-ce une maladie systémique affectant indirectement le système nerveux ou une maladie du système nerveux proprement dit? La présence d'érythème suggérait que tout son organisme était affecté.
Avant tout, Schmeckel fait passer à David Jones une scanographie. Les résultats sont inquiétants. Les clichés montrent que David a subi des dommages neurologiques considérables. Son cerveau présente une lésion au cœur du lobe temporal gauche qui commande la mémoire et le langage. Mais le médecin en ignore l'origine.
Il m'a dit que mon corps se détériorait de jour en jour et qu'il ne pouvait rien faire pour freiner ça.
Les troubles dont souffre David Jones n'affectent pas uniquement les pêcheurs. Joanne Burkholder elle-même n'est pas épargnée. En étudiant des poissons de ces rivières de Caroline du Nord, elle ressent les mêmes symptômes que Jones.
Nous avions bien quelques troubles, mais j'ai alors choisi de les ignorer. Je mettais mon mal de gorge sur le compte d'un virus, j'attribuais mes maux de tête au stress et mon essoufflement à des allergies.
Et ce n'est pas la première fois. 2 ans auparavant, en manipulant des échantillons d'eau ayant abrité des poissons malades, Joanne Burkholder a eu une étrange réaction.
J'avais trempé mes mains dans des aquariums pour en retirer des pipettes d'eau destinées à une expérience. Et je tenais la pipette près de mon visage.
Soudain, Joanne est prise de faiblesse et de vertige. Elle est obligée de sortir du laboratoire.
J'étais pliée en deux. J'avais de terribles crampes d'estomac et j'avais du mal à respirer. J'en ai déduit que j'étais victime d'une crise d'asthme.
L'air frais de l'extérieur dissipe son malaise. Mais la chercheuse n'a pas la moindre envie de retourner au laboratoire et décide de rentrer chez elle.
Je n'ai plus qu'un souvenir très vague de ce qui s'est passé pendant les 8 jours suivants. Sinon que je réalisais par éclipse que ça n'allait pas bien du tout. C'était une expérience terrifiante.
Pour justifier son absence, Joanne prétexte une grippe. Mais ses symptômes suggèrent bien autre chose. Pendant une semaine, Elle ne parvient pas à fixer sa mémoire.
J'étais incapable de tenir une conversation. Et je me suis terrée dans mon appartement pendant 8 jours. Quand j'ai commencé à émerger, je me suis testée en regardant le bulletin d'information et en essayant d'écrire une phrase entendue à la télévision.
Après s'être cloîtrée chez elle pendant plus d'une semaine, Joanne Burkholder se sent à nouveau d'attaque pour reprendre ses travaux au laboratoire, avec la ferme intention de découvrir ce qui l'a mise dans cet état. À l'époque, elle étudie des micro-organismes unicellulaires appelés dinoflagellés.
Ce sont des organismes primitifs, c'est-à-dire qu'ils sont apparus sur Terre il y a très longtemps. Ils comptent parmi les plus anciens des organismes dont la cellule contient un noyau. Leur existence remonte donc probablement à 500 ou 800 millions d'années. Mais par certains aspects, ils n'ont rien de primitif. Ils ont eu largement le temps de développer des interactions chimiques complexes avec d'autres êtres vivants.
La deuxième fois que Joanne Burkholder ressent des troubles étranges, elle vient de commencer à travailler sur une algue microscopique appelée Fiesteria. Capable de se transformer jusqu'à 24 fois au cours de son cycle de vie, ce minuscule prédateur devient de plus en plus meurtrier au fil de son évolution. On a d'ailleurs découvert récemment qu'il est responsable de la mort de milliers de poissons des cours d'eau de Caroline. Pourquoi? Le mystère plane toujours. Mais la Fiesteria semble surtout abonder dans les estuaires côtiers, là où l'eau douce des cours d'eau se mélange à l'eau salée de l'océan. Sa présence dans les bassins de marée des rivières Neuse et Pamlico est alarmante.
La Fiesteria est un organisme qui mange à peu près tout. Elle peut se nourrir d'organismes morts ou vivants, mais a une prédilection pour le poisson.
Tel un microscopique Dr. Jekyll et Mr. Hyde, la Fiesteria est la plupart du temps une algue plutôt bénigne, qui siège paisiblement dans les fonds vaseux des estuaires. Mais quand elle sent la présence de poissons à proximité, elle grossit jusqu'à atteindre plusieurs fois sa taille initiale. À l'aide de minuscules tentacules, elle projette une toxine si venimeuse qu'elle est littéralement capable de dissoudre la chair des poissons. Bref, la Fiesteria peut être une implacable machine de mort. Les scientifiques craignent que cet organisme récemment découvert ne s'attaque également aux hommes. Il leur faut absolument le découvrir au plus vite. Dans les eaux côtières de Caroline du Nord, un étrange organisme tue les poissons et dévore leur chair en l'espace de quelques minutes. Les pêcheurs souffrent également d'importantes lésions cutanées et d'une dégradation de leurs facultés motrices et cognitives. La maladie affecte beaucoup de pêcheurs, comme David Jones.
Je suis malade, je ne me sens pas bien, et je n'arrive pas à trouver de réponse à ma question la plus importante. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne peut répondre à cette question.
Au Centre d'écologie appliquée de Caroline du Nord, l'équipe de Joanne Burkholder cherche des réponses. Il semble que l'algue Fiesteria soit plus dangereuse qu'on ne le croit et qu'elle attaque peut-être aussi les humains. Les pêcheurs en sont les victimes les plus fréquentes, mais les scientifiques ne sont pas épargnés. Depuis des années, Howard Glasgow, chercheur en écologie marine, travaille avec Joanne Burkholder sur la Fiesteria. Lui aussi est atteint d'étranges symptômes.
J'éprouvais une sensation d'euphorie. Dès que je me levais, mon esprit fonçait à 1000 km à l'heure, mais mon corps bougeait au ralenti, comme en état d'apesanteur. J'avais presque l'impression que mon esprit sortait de mon corps.
Une bonne dizaine de chercheurs sont malades. L'université n'a pas d'autre choix que d'ordonner la fermeture du laboratoire pour désinfection, interrompant ainsi les travaux sur la Fiesteria pendant plus d'un an.
Toutes nos cultures ont été détruites parce qu'elles ne pouvaient pas survivre à une période de dormance d'un an et demi. On a donc dû tout recommencer à zéro.
En juin 1995, un laboratoire de biosécurité de niveau 3 est inauguré. Il est divisé en deux parties. Une zone confinée, dite « chaude », réservée au travail sur des agents toxiques, et une zone séparée, dite « froide », pour les travaux courants. Joanne Burkholder est satisfaite. La conception de ce nouveau laboratoire minimise beaucoup les risques d'exposition à des organismes mortels. L'équipe reprend ses travaux et ses cultures de Fiesteria. Joanne Burkholder cherche la réponse à deux questions essentielles. Par quelle voie l'algue contamine-t-elle les humains et que peut-on faire pour l'arrêter? Elle demande l'aide du Service océanographique national de Charleston, en Caroline du Sud. John Ramsdell et Peter Muller sont deux experts mondialement renommés en matière de toxicologie marine. Burkholder leur fait parvenir un échantillon de Fiesteria. Les deux chercheurs vont tenter d'isoler ce qui rend l'algue aussi dangereuse. Peter Muller sait qu'on lui demande presque l'impossible.
Ça revient à chercher une aiguille dans une meule de foin sans savoir à quoi ressemble l'aiguille. Il faut commencer par morceler la meule, jeter tout ce qu'on identifie comme du foin et analyser tout le reste. Et petit à petit, on reconstitue ce qu'on identifie comme la substance active. Tout cela sans savoir à quoi elle ressemble.
Le premier défi des chercheurs est de tenter d'identifier et d'isoler la toxine sécrétée par l'algue. Des échantillons de toxines sont dissous dans un solvant, puis isolés au terme d'un processus d'évaporation contrôlé. Une fois la toxine isolée, il faut en comprendre le fonctionnement. Dans leur laboratoire, les deux chercheurs observent la façon dont des cellules spécialisées réagissent à la présence de la toxine.
On a sondé l'intérieur des cellules pour observer les mécanismes biochimiques qui se produisent. C'est à partir de cette information que les médecins ont mieux pu comprendre comment cette toxine avait des effets négatifs sur la mémorisation et comment elle provoquait la formation de lésions cutanées.
Ramsdell et Muller découvrent une substance dangereuse aux effets inquiétants. Ils s'efforcent de décrypter le mécanisme par lequel la toxine de la Fiesteria affecte le système immunitaire et les fonctions cérébrales. Maintenant qu'ils commencent à comprendre l'action de la toxine, ils veulent déterminer ses cibles de prédilection. Ils commencent par observer ses réactions face au sang de divers organismes. Ils constatent rapidement que la toxine ne réagit pas au contact du sang de poulet congelé. Mais il en va tout autrement en présence de sang humain.
Elle est très agressive et aime attaquer. En lui donnant du sang humain, on a nettement vu que la toxine s'y attaquait avec autant d'agressivité qu'au sang de poisson.
Bien que travaillant dans une zone à l'innocuité en principe garantie, Howard Glasgow, spécialiste en biologie marine, est tout de même atteint de symptômes alarmants.
Il m'arrivait de discuter avec des gens, de quitter la pièce, puis d'oublier que je leur avais parlé, ou même que j'étais déjà venu. Je leur reprochais leur absence, et quand ils m'affirmaient le contraire, je les traitais de fous, alors que c'était moi qui avais un problème.
« Les techniciens de laboratoire craignent que la toxine n'ait des propriétés volatiles et ne s'échappe de la zone de confinement pour gagner les bureaux. Si c'est le cas, ils doivent très vite trouver la source du problème. Soupçonnant une défaillance du système de ventilation, ils procèdent à un test d'enfumage. De la fumée est injectée dans le circuit de ventilation pour voir comment l'air provenant de la zone de travail est traité. En principe, toute la fumée devrait être évacuée vers l'extérieur. Mais quand ils reviennent dans le bureau de Glasgow, leur pire crainte se confirme. Un système de ventilation mal installé envoie l'air toxique directement dans la conduite d'aération qui débouche au-dessus du bureau de Glasgow.
Il était donc évidemment très exposé, alors qu'il croyait travailler dans des conditions parfaitement sécuritaires.
L'incident conduit les chercheurs à soupçonner que l'algue n'agit pas seulement dans l'eau. Sa toxine a peut-être aussi des effets pathogènes à l'état gazeux. Cela, David Jones l'a déjà appris à ses dépens. Bien qu'il ait abandonné son métier de pêcheur, il souffre encore d'étranges symptômes.
Il m'arrive de me trouver à moins de 800 mètres de l'eau et d'avoir la peau qui me démange, les yeux qui larmoient et mal à la tête. On sent que quelque chose ne va pas parce que nos sens sont affectés.
L'équipe de Joanne Burkholder concentre ses recherches sur la rivière Neuse, où David Jones et d'autres pêcheurs ont été contaminés. Si l'algue est concentrée dans l'eau, elle peut facilement passer à l'état volatile et infecter la population de tout l'état.
Quand le vent se lève, il fait projeter en l'air des molécules d'eau chargées de toxines de l'algue Pfiesteria.
À plus de 300 km au nord, dans la baie de Chesapeake, des pêcheurs du Maryland sont témoins d'un affreux spectacle. Des milliers de poissons morts flottent à la surface de l'eau, couverts d'horribles lésions, la queue rongée. Les pêcheurs tombent malades à leur tour. Dave Morley a pêché dans la région de Chesapeake toute sa vie. Depuis un an, il a des trous de mémoire chroniques et souffre de plaies suppurantes sur les bras. Inquiet, il consulte son médecin de famille.
Hey, Doc. Good afternoon.
À Pocomoke, au Maryland, le docteur Richie Shoemaker a remarqué que beaucoup de ses patients exerçant le métier de pêcheur ont les bras et les jambes constellés de lésions. Ils se plaignent aussi de perdre la mémoire.
Ces symptômes ne ressemblaient à rien de ce que j'avais vu auparavant. J'ai vite compris que j'étais confronté à des pathologies qui dépassaient mes compétences. Je ne comprenais pas ce que mes patients avaient et j'avais peur de ne pas pouvoir les aider.
Shoemaker est très inquiet. Il entreprend ses propres recherches et découvre que des phénomènes similaires affectent les poissons et les pêcheurs de Caroline du Nord. L'agent pathogène serait une algue appelée Pfiesteria et le nom de Joanne Burkholder est évoqué à plusieurs reprises. Shoemaker la contacte. Il découvre alors qu'il y a des similitudes frappantes entre les symptômes de ses patients et ceux des pêcheurs qu'elle a étudiés. Un échantillon d'eau prélevé dans la baie de Chesapeake est envoyé au laboratoire aquatique de Caroline du Nord. L'analyse révèle la présence de Pfiesteria, ce qui confirme les pires craintes de Shoemaker. La dangereuse toxine infeste également les eaux du Maryland. En 1995, une algue microscopique récemment découverte fait son apparition le long des côtes de Caroline du Nord. Elle est responsable de la mort de millions de poissons et les chercheurs la soupçonnent désormais de s'attaquer aux humains qui sont en contact avec l'eau. À des centaines de kilomètres de là, au Maryland, le même organisme a été identifié, mais cette découverte n'a pas encore été rendue publique. À l'occasion d'un week-end de pêche, une célébrité locale va toutefois faire éclater l'affaire au grand jour. Paris Glendening, gouverneur du Maryland, part faire une partie de pêche avec son fils. Au nord du pont-tunnel de la baie de Chesapeake, les deux hommes capturent une rascasse. Leur enthousiasme va vite se muer en répulsion en découvrant que le poisson est couvert de lésions.
C'était horrible. On aurait dit que des parties entières de son corps avaient été rongées par de l'acide ou des vers. Le poisson était vraiment mal en point. On se trouvait visiblement face à un problème grave.
Et ce problème ne va que s'aggraver. Quelques semaines plus tard, on retrouve 10 000 cadavres de poissons flottant ventre à l'air à l'embouchure du fleuve Pocomoke au Maryland. Le petit cabinet du docteur Shoemaker ne désemplit pas. Curieusement, tous ces patients se plaignent des mêmes symptômes. Lésions cutanées, confusion mentale, perte de mémoire, maux de tête, fatigue, picotement de la gorge et des yeux.
L'infection à Pfizteria était la première maladie visiblement reliée à un facteur environnemental et à une neurotoxine d'origine biologique. Les troubles constatés ne correspondaient à aucun schéma connu jusque-là.
Au Maryland, comme en Caroline du Nord, les pêcheurs ne sont pas les seuls touchés. L'environnementaliste Yvonne Lawson cherche à connaître la cause de ces hécatombes de poissons. Au bout de quelques mois de recherche, elle commence à son tour à souffrir de divers symptômes, dont des trous de mémoire.
J'avais des problèmes respiratoires. J'étais incapable de me concentrer. Je ne pouvais plus lire ou mener une conversation. Je devais noter tout ce que j'avais à faire. J'écrivais donc tout et j'avais constamment des notes plein les poches.
Dans son cabinet, Shoemaker a identifié 60 patients qu'il soupçonne d'avoir été gravement exposés à la Pfizteria. Les agents de santé ne peuvent plus l'ignorer. Il s'agit d'une véritable épidémie. Soucieuse de recueillir le maximum d'informations sur la Pfizteria, les autorités sanitaires décident d'agir à l'échelle de l'État. Sous l'égide du Dr Glenn Morris de la Faculté de médecine du Maryland et de l'Université Johns Hopkins, un comité de médecins se rend à Pocomoke pour y examiner un groupe de patients, dont ceux du Dr Shoemaker.
On s'est tous entassés dans un véhicule du ministère de la Santé pour descendre jusqu'à la rivière Pocomoke. Pendant le trajet, j'ai brièvement mis en garde mes confrères contre les phénomènes d'hystérie collective. Je leur ai rappelé que notre but visait à rassurer la population, qu'il n'y avait pas de risque pour la santé publique. En réalité, les choses allaient se passer autrement.
À la vue des patients, les médecins sont stupéfaits. Il ne s'agit en aucun cas d'une hystérie collective. Les 13 sujets examinés souffrent de lésions cutanées, de perte de mémoire et de difficultés d'apprentissage liées à l'exposition à la Pfizteria qui infeste les eaux.
Okay.
Lynn Grattan, neuropsychologue à l'Université du Maryland, mesure les fonctions cognitives des patients.
We have Mr. Morley with us today.
Les pêcheurs que nous avons rencontrés avaient peur. Ils étaient très inquiets à l'idée que leurs troubles les empêchent de travailler, de gagner leur vie. Ils voulaient savoir si c'était irréversible ou si leur état allait s'améliorer.
Au départ, elle pense que l'évaluation de chaque patient ne lui prendra pas plus d'un quart d'heure.
Right hand only. Are you ready?
Ready.
Okay, go.
Quand j'ai commencé, je ne m'attendais pas du tout à rencontrer des troubles significatifs ou spectaculaires. Il me semblait inimaginable qu'une toxine faisant irruption dans des estuaires puisse rendre des gens aussi malades.
Les patients présentent des troubles si graves que Grattan passe finalement près de 2 heures avec chacun d'entre eux.
Je n'arrivais pas à y croire. Il est tout à fait exceptionnel de constater des troubles d'une telle ampleur et identiques chez tout un groupe de gens. Les gens qui avaient été largement exposés au cours d'eau présentaient de graves problèmes d'apprentissage et de mémoire.
Au bout de 10 jours d'évaluation, les médecins de la commission se réunissent pour discuter de leur première découverte.
You got 13 people and just about everybody has some kind of skin problem. There are some on the feet, some on the hands, and some on the trunk.
Interesting. Their stories were quite amazing. Confusion and memory problems. So I'm really curious what Lynn was able to measure because, you know, from a...
Le comité de médecins effectue une étude comparative entre les malades de Pocomoc et un groupe témoin de pêcheurs. Lynn Grattan décrit les symptômes qui frappent les pêcheurs. Elle a constaté que les sujets exposés à des eaux contaminées éprouvent d'importantes difficultés cognitives.
They were able to learn material at a much slower rate than age and education compared. Normals or non-exposed individuals. The deficit was pretty significant. And this probably explains why they're complaining of confusion. They're not taking in or learning information.
Ce n'était pas de l'hystérie collective. Il se passait quelque chose de très réel, de tangible et de très étrange dans le cerveau de ces gens.
What's going on in the brains of these individuals? These are the PET scans.
L'équipe médicale rédige son rapport au bureau de la santé du Maryland. Les experts ne mâchent pas leurs mots.
As you can see here, there's some hypermetabolic activity outlined in the bright yellow in this group compared to the control group. Now, we have to keep in mind.
Un faisceau d'indices suggère fortement que l'exposition à la rivière est à l'origine de problèmes d'apprentissage et de mémorisation. Mais comment y remédier?
What we have here is still a mystery. We don't know what's going on with these people, but the data that we have say that there's something real that's happening.
One of the things I'm not comfortable with is I'm not.
Il n'y a qu'une seule certitude. Le problème se trouve dans l'eau.
We're going to have people out there on that river, and are we comfortable with people having continued exposure to the river based on what we're seeing with these findings? We need to get the state health department into this, and go to the governor.
You know, the governor is ready to close the river if you give him the red light and tell him to.
Yes, under those circumstances, from a public health standpoint, we got to shut down the river.
Le gouverneur n'a pas le choix. Il réagit sur le champ. Pour la première fois dans l'histoire du Maryland, la rivière Pocomoke est interdite au public. Nul ne sait pour combien de temps, ni si les malades pourront être soignés. Une algue aux effets dévastateurs a envahi les cours d'eau du Maryland et affecte gravement la santé de la population. En 1997, le gouverneur de l'État interdit l'accès à la rivière Pocomoke. Il ne veut rien laisser au hasard.
Ce qui, au départ, n'était qu'un problème local de mort massive des poissons, s'est mué en une menace pour la santé et la vie humaine.
À l'Institut national des sciences de l'environnement et de la santé de Caroline du Nord, des scientifiques se réunissent pour faire le point sur l'état de la recherche sur la toxine de la Fiesteria.
Beaucoup de responsables de l'état du Maryland sont venus, mais aussi des pêcheurs, des médecins de la région et des scientifiques invités pour nous éclairer sur le problème. Nous nous sommes tous réunis pour exposer des données ou des idées et plancher sur le phénomène responsable de la maladie des poissons.
Les scientifiques s'interrogent surtout sur ce qui a pu déclencher la maladie. Naturellement présente dans certains cours d'eau, la Fiesteria ne pose en général pas de problème. Mais une cause inconnue a provoqué la prolifération incontrôlable de ces toxines. Selon les scientifiques participant au colloque, la multiplication de la Fiesteria pourrait résulter de l'excès de nutriments dans l'eau, dû en grande partie au déversement de déjections animales dans les rivières qui compromettent l'équilibre écologique. En Caroline du Nord, le volume du lisier est tel qu'il est visible depuis l'espace.
On considère que la quantité de lisier de porc en Caroline du Nord équivaut à la totalité des eaux usées de la Californie et de New York réunies.
Les autorités de l'État décident également d'interdire l'accès à la rivière Neuse, contaminée elle aussi. Quant au Maryland, pour lutter contre la prolifération de Fiesteria, il adopte en 1998 la loi la plus sévère des États-Unis en matière de salubrité de l'eau.
Autrefois, les mineurs de fond amenaient des canaris avec eux dans la mine. En cas de fuite de gaz, le canari mourait et les mineurs se précipitaient vers la sortie avant d'être asphyxiés. La Fiesteria joue le même rôle que les canaris d'autrefois. C'est un signal d'alarme qui montre que le niveau de pollution a franchi le seuil de ce que la nature peut tolérer dans nos eaux. Cela démontre que nous devons faire quelque chose pour y remédier.
Tandis que les hommes politiques tentent de gérer la situation au mieux, des médecins comme Richie Shoemaker continuent de voir affluer des dizaines de malades à leur cabinet. Shoemaker en voit défiler tellement que, mu par son intuition, il décide d'essayer un traitement à la cholestyramine, un puissant médicament anti-cholestérol. Une fois absorbé, il s'aimante au mauvais cholestérol et l'entraîne hors de l'organisme du patient.
La cholestyramine a été utilisée pour traiter de nombreuses affections toxicologiques dans le passé. C'est l'une des rares substances qui lie les dioxines, le chlorophalanil, le DTT et les PCB. Il en lie les toxines.
Shoemaker a vu juste. Le médicament s'avère si efficace que les trois premiers malades traités voient leurs symptômes disparaître en 3 jours. Shoemaker découvre que le traitement doit être administré peu de temps après l'exposition à la Fiesteria et qu'il est plus efficace sur les sujets ayant subi une exposition limitée. Trois mois après avoir vu ses 13 premiers patients, la neuropsychologue Lynn Grattan effectue une consultation de suivi pour tester l'évolution de leurs fonctions cognitives. Onze personnes ont recouvré toutes leurs facultés. Mais les deux autres, sans doute les plus exposées à l'algue toxique, présentent toujours des troubles sévères. Aujourd'hui, l'épidémie de Fiesteria est devenue un problème de santé publique largement connu. Au laboratoire océanique national de Charleston, en Caroline du Sud, John Ramsdell poursuit ses travaux pour essayer d'endiguer la Fiesteria. Son équipe tente de mettre au point un marqueur qui permettrait aux autorités sanitaires de détecter la présence de la toxine dans l'eau. La faible lueur verte émise par un échantillon de Fiesteria témoigne de son succès. En combinant un gène humain et un gène d'une luciole, les chercheurs Ramsdell et Muller ont réussi à créer un marqueur qui émet une lueur verte en présence de Fiesteria.
Quand les cellules réagissent à la toxine, elles déclenchent l'action du gène qui ordonne à des enzymes spécifiques d'émettre une lueur verte. Autrement dit, les cellules sont comme des petites lampes qui clignotent en présence de la toxine. Elles subissent un changement biochimique qui, au lieu de déclencher une action toxique, génère de la lumière.
Mais pour le chercheur Howard Glasgow du laboratoire aquatique de Caroline du Nord, il est peut-être déjà trop tard. Son état continue de se détériorer. Il est désormais atteint de tremblements, d'insensibilité dans les bras et les jambes et d'une dégénérescence progressive de la moelle épinière.
If uncorrected and we're unable to control this, then eventually it will get to the point where I'll be completely paralyzed.
Si on ne trouve pas de traitement, ça va s'aggraver jusqu'au point où je serai totalement paralysé en raison de la destruction de la myéline qui gaine les nerfs provoquée par la dégénérescence de ma moelle épinière. Évidemment, je m'intéresse à titre personnel au mode d'action de la toxine de la Fiesteria. Nous devons en apprendre davantage sur la façon dont elle affecte le cerveau. Cela peut être utile pour comprendre les symptômes de la maladie d'Alzheimer et des affections neurodégénératives comme la sclérose en plaques. Moi et d'autres malades contaminés par la Fiesteria connaissons bien ces symptômes combinés.
In my situation and others that have been exposed to Fiesteria.
An Alexandrium toxin that I'm checking into. Thanks.
Joanne Burkhalter a été largement exposée à la Fiesteria. Elle souffre aujourd'hui de bronchite chronique, mais tient à poursuivre ses travaux sur la toxine.
La seule raison qui me pousse à continuer mes recherches, c'est la santé d'Howard. Après les séries de cas qui ont éclos en 1997 au Maryland et en Caroline du Nord, je suis restée pour aller jusqu'au bout, identifier cette toxine et essayer d'aider Howard.
Les scientifiques doivent encore mettre au point un test pour détecter la présence de la toxine dans le sang humain. Pour l'heure, le corps médical américain a baptisé cette affection le syndrome des estuaires.
So open your mouth a little bit for me, about like that. Good.
Les recherches continuent, mais la question de savoir si ces symptômes sont bien dus à la Fiesteria fait encore débat.
Les symptômes sont si atypiques qu'ils peuvent être ceux d'autres maladies très communes. Nous ne connaîtrons la réponse que lorsque des tests fiables sur la toxine auront été mis au point. Et d'ici là, la prudence commande qu'on évite de manger des poissons présentant des lésions et de s'approcher des lieux où des poissons meurent en masse.
Richie Shoemaker, au contraire, considère que les symptômes sont suffisamment caractéristiques pour être pris au sérieux.
Il ne s'agit pas de croire n'importe qui sur parole. Si quelqu'un affirme avoir vu des poissons porteurs de lésions, son témoignage doit être corroboré. Le scepticisme est légitime, mais il n'est pas de mise face à des anomalies aussi manifestes.
Look at the condition of them, the coloration. They're supposed to be white and clean, and they are brown and full of toxins.
Ceux qui souffrent des symptômes présumés induits par une exposition à la Fiesteria, comme les pêcheurs Seth Willis et David Jones, n'ont pas besoin d'experts pour leur démontrer que les effets de l'algue existent bel et bien. David Jones a vu sa santé se détériorer et il ne peut plus travailler sur l'eau. La toxine lui a volé ce qui faisait toute sa vie.
J'ai passé ma vie à essayer de bâtir une entreprise et j'ai tout perdu. On a le sentiment d'être un poids pour autrui et c'est difficile à vivre.
Tandis que les scientifiques bataillent pour comprendre cette mystérieuse algue, David Jones espère seulement qu'un jour, il aura retrouvé un esprit clair et que les eaux seront assez limpides pour qu'il puisse retourner pêcher.